Le terme ressource peut se définir au moyen de plusieurs autres idées. L'idée de somme, l'idée d'intégrale, celle d'origine et celle de reste, et peut-être aussi de récapitulation. Au fond, lorsque nous évoquons le terme de recherche, de ressources, nous évoquons l'utilité et la rareté, mais aussi bien l'utilité et la rareté sont-elles imprévisibles, et nous évoquons aussi la notion d'homogénéité et de diversité. Lorsque nous parlons d'homogénéité, il vaudrait mieux dire capital. Un capital est réuni des éléments homogènes. Et lorsqu'il s'agit de diversité, mieux vaut parler en effet de ressources qui varient en effet selon les besoins, les circonstances et le temps. Et cette question des ressources en amène plusieurs autres. Que reste-t-il à notre disposition ? Pouvons-nous en évaluer la somme ? Pouvons-nous en faire le bilan global ? Où se trouvent les ressources ? Autre question. Et en quoi consiste-t-elle ? Et finalement, qu'en faire ? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette gerbe de questions, je crois qu'il faut que nous nous adonnions à des inventaires. Le mot « inventaire » est très important et je crois que la plupart des participants du colloque qui vient de se terminer s'est adonné plus ou moins à des inventaires locaux dans telle et telle discipline, dans telle et telle région. C'est un très riche mot que le mot d'inventaire, puisqu'il comprend le terme invention. Peut-on faire des inventions ? Peut-on inventer sans faire des inventaires ? C'est une vraie question. Et à mon avis, il existe deux types d'inventaires. Le premier tient compte du temps. Et j'évoquais tout à l'heure la notion de récapitulation. Et en effet, on peut faire un inventaire en faisant une récapitulation historique. Je vais m'y adonner tout à l'heure un petit peu, en se posant la question, a-t-on déjà dans l'histoire posé ce type de problème ? En faisant, alors là, en donnant de l'importance au temps des hommes. Mais d'autre part, peut-on imaginer aussi une genèse, une évolution des ressources ? Et dans ce cas-là, on donne de l'importance au temps des choses. C'est des sources de ressources. Deuxièmement, alors après cette récapitulation historique ou cet inventaire tenant compte deux fois du temps, on peut amener alors des inventaires positifs et chiffrés. Et je crois que dans beaucoup de diapositives données pendant ce colloque, on vous a fourni des milliers de chiffres, des centaines de chiffres, prouvant que les inventaires en question sont déjà faits. Alors d'abord, je voudrais revenir sur cette récapitulation historique qui me paraît assez intéressante et surtout qui me paraît intéressante, pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup évoqué ici la pratique de l'interdisciplinarité. Et cette pratique est très importante en effet pour les ressources et surtout lorsqu'on veut faire des inventaires de sciences, c'est-à-dire des ressources cognitives. Et ces ressources cognitives sont évidemment croisées, compte tenu du fait que la connaissance doit être et probablement à la fois rare et utile, rare parce qu'elle contient beaucoup d'informations et utile parce qu'elle est féconde. Alors, prenons 4 ou 5 exemples, disons des exemples un par siècle, de cette récapitulation. Voici, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, mais ça me paraît important de le faire au moins pour des exemples locaux. Né en 1596 et mort en 1650, René Descartes commence sa carrière avec des inventions de géométrie algébrique. Son discours de la méthode, c'est une préface pour 3 textes scientifiques qui s'intitulent « La géométrie, la dioptrique et les météores ». Et je vous demanderai de souligner l'ordre de ces textes. La géométrie, d'abord, la dioptrique, c'est-à-dire quelque chose comme de l'optique, et puis les météores, quelque chose comme de la physique du globe, au moins dans ses débuts. Et dans sa carrière vont suivre un traité du monde, un traité de l'homme, Le traité de l'homme étant consacré à la médecine, à l'anatomie, à la physiologie, et ainsi de suite. Eh bien, je crois que l'œuvre de Descartes, que je ne vais pas commenter, bien sûr, puisqu'elle est en grande partie dépassée, mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il s'agit là d'un premier essai d'une science générale, qu'il appelait d'ailleurs déjà « Mathesis universalis », et cette science générale, c'est déjà l'inventaire des ressources cognitives de ce temps. Pas seulement de l'invention, mais aussi l'inventaire. Mais cet inventaire des sciences cognitives du temps a une sorte de profil, une sorte de courbe. Elle part des sciences formelles, la géométrie algébrique, et elle finit par les sciences qu'on pourrait aujourd'hui appeler les SVT, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la Terre, puisqu'il s'agit en effet du climat, puisqu'il s'agit des météores, puisqu'il s'agit du monde et qu'il s'agit des vivants, c'est-à-dire de l'anatomie et de la pathologie. D'ailleurs, vous le savez, Descartes conseille même que chacun devienne le médecin de soi-même. Par conséquent, il y a déjà dans cet inventaire-là non seulement un stock, non seulement un résumé des ressources, mais un profil. Ce profil va, je le répète, des sciences formelles aux sciences réelles, XVIIe siècle. Deuxième exemple, né en 1707 et mort en 1788, Buffon commence aussi par les mathématiques, le saviez-vous ? En effet, il rentre à l'Académie des sciences très jeune, il y est présenté par Maupertuis et Clairaut, qui sont les grands mathématiciens de cette époque, et il est spécialiste de calcul infinitésimal et de calcul des probabilités. Tout le monde connaît l'expérience de l'aiguille de Buffon, qui est l'ancêtre de la méthode statistique de Monte Carlo. Très bien. Eh bien, Buffon quitte les mathématiques à un moment. Il est propriétaire à Montbard, en Bourgogne, de hauts fourneaux et de terres agricoles. Et il s'adonne, ça m'intéresse de vous le raconter, il s'adonne à une expérience très intelligente et à un test tout à fait nouveau. Il place dans les hauts fourneaux des boules de tailles différentes, mélangées de terre et de métaux, et il les retire une fois chauffées de façon intense, et il les laisse doucement refroidir dehors. Et d'après les différences de volume entre ces boules-là, il déduit étrangement l'âge de la Terre. Et il tombe sur des millions d'années. Et nous avons une correspondance de Buffon disant qu'il n'ose pas présenter ce résultat à l'Académie des sciences, ben tout simplement parce qu'à l'Académie des sciences, ils sont tous newtoniens, et quand on est tous newtoniens, ils sont évidemment pour un temps réversible qui ne peut pas subir d'irréversibilité. Et par conséquent, Buffon est très gêné de poser cette question, mais il quitte alors cette science-là un peu par cette peur, et il s'adonne intensément, comme vous le savez, comme président du Jardin des Plantes, à sa fameuse histoire naturelle, qui est de nouveau l'inventaire des vivants. Et nous sommes en présence d'une œuvre qui est évidemment aujourd'hui plutôt un monument de la littérature qu'un monument de la science, évidemment, mais qui a exactement le même profil, la même tendance que celle que j'ai dessinée dans l'œuvre de Descartes, une sorte de science générale, partie des mathématiques, c'est-à-dire des sciences formelles, et revenant, eh bien, tout simplement, à ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences de la vie et de la Terre, puisque précisément, il est le premier à avoir donné une idée de l'âge de la Terre et, d'autre part, de faire le stock, comme vous savez, de l'histoire naturelle des plantes et des animaux. Et voilà que l'œuvre de Buffon est en effet une sorte d'inventaire des ressources naturelles, des ressources formelles d'abord et puis ensuite réelles, c'est-à-dire à la fois concrètes, inerte et vivante. Voilà pour le XVIIIe siècle. D'ailleurs, je dessinerai le même profil pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, partie de la mécanique de d'Alembert et qui se poursuit ensuite par une grande théorie de la vie chez Diderot. XIXe siècle. Né en 1798 et mort en 1857, Auguste Comte va parcourir exactement la même orbite. C'est-à-dire que professeur de mathématiques et de mécanique à l'École polytechnique, passionné de mécanique céleste et d'astronomie, et de ce qui deviendra plus tard la physique du globe, puisqu'il estime la forme du globe et son volume, d'après les calculs de Maupertuis, mais il rédige donc pendant plusieurs années son fameux cours de philosophie positive, où il décrit en précision l'ensemble de l'encyclopédie. et voilà de nouveau un inventaire des ressources cognitives de ce temps. Voilà un inventaire donné, un inventaire complet, puisque nous avons beaucoup admiré à cette époque-là l'encyclopédie décrite par Auguste Comte, qui a été le fondement de l'éducation en France et dans beaucoup de pays à l'étranger jusqu'à tout à fait récemment. Mais de nouveau, je voudrais que vous regardiez avec moi la courbe de cette encyclopédie dessinée par Auguste Comte et l'école positiviste. Elle part en effet de la mécanique, elle part en effet de la géométrie, et voilà que, il le dit, je devins à un certain moment biologiste de seconde formation. Il devient le disciple de Blainville et il commence à se passionner en effet pour la zoologie, pour la botanique, ainsi que pour la théorie de la Terre. Et du coup, Auguste Comte, de nouveau, découvre, comme tous les deux autres savants, comme les trois autres savants, le souci des choses. Et j'appellerai peut-être ma conférence peut-être le souci des choses plus que l'inventaire des ressources. Ces philosophes-là, dans notre passé, dans la récapitulation que je suis en train d'en faire, vont être de plus en plus attentifs aux choses même, aux vivants, aux choses inertes, et de plus en plus attentifs au temps des choses, au temps des choses. Non seulement une récapitulation ou un inventaire des sciences, mais un inventaire des choses et un inventaire, ou plutôt une histoire, car chez Auguste Comte, la classification des sciences est aussi une histoire des sciences. Il montre bien que l'histoire des sciences a continué ou a suivi l'ordre de la classification, 19e siècle. 20e siècle, écoutez, là, je ne fais que confirmer la tendance que j'ai dessinée jusqu'à maintenant. Né en 1887 et mort en 1961, après des inventions de génie que vous connaissez tous en physique théorique et en mécanique quantique, Schrödinger, beaucoup plus près de nous, et prix Nobel avec Dirac en 1933, va écrire en 1944 à Dublin, alors qu'Autrichien ici était réfugié pour fuir le régime nazi, il écrit, dis-je, « What's life ?», qui est le fameux livre prophétique où le physicien, s'inspirant de la néganthropie, est devenu à son tour biologiste, comme les premiers que je viens de citer, définit ce qu'on appellera plus tard le génome codé comme un cristal apériodique. Il prédit donc les futurs développements de la génétique. Voilà des exemples, voilà une récapitulation, voilà un inventaire historique que je peux faire. Et ces quatre exemples m'intéressent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils disent vraiment ce retour aux choses. Ce retour aux choses qui était inattendu dans l'œuvre de Descartes, dans l'œuvre d'Auguste Comte, aussi bien dans celle de Buffon. Inattendu pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous partis de l'idée que les sciences les plus fondamentales étaient les sciences formelles. D'ailleurs, je crois pouvoir avouer que moi aussi, j'étais parti de cette idée-là. Et finalement, non seulement ils reviennent tous aux choses du monde et aux sciences de la vie et de la terre, mais on dirait même qu'ils s'y étaient convertis. Et cette conversion, c'est peut-être la conversion de notre temps. Ils sont passés, tous les quatre, des ressources formelles, des ressources unitaires, etc., des ressources homogènes, aux ressources réelles, disparates et diverses. Et voilà que tous les quatre, tous les cinq vont s'adonner à un inventaire de ce genre. J'ai beaucoup cité des philosophes et des scientifiques, mais je me demande parfois si la généralité visée par la philosophie n'est pas finalement autre chose qu'un inventaire des ressources, qu'un inventaire des ressources à la fois formelles et réelles. J'aurais envie de raconter, mais je n'ai pas le temps, un mouvement symétrique parti de l'autre côté du savoir. J'ai défini là un mouvement qui va des sciences formelles vers les sciences de la vie et de la terre, mais on pourrait dessiner une sorte de mouvement symétrique dans des œuvres parties au contraire des sciences humaines. Considérez par exemple l'œuvre de Michelet, qui est si importante pour les gens de notre génération, qui partit, lui, de l'histoire, et il a fait une histoire complète de la France et souvent de ses relations avec l'Europe. Et tout d'un coup, il se convertit vraiment. Il dit « Une révolution s'est faite en moi, Et tout d'un coup, lorsque dans mon livre du peuple, dit-il, j'ai cité les simples, les paysans, les ouvriers, les ignorants, les illettrés, les barbares, les sauvages, etc., je ne m'étais pas aperçu qu'ils n'étaient pas le seul à devoir être reçus dans le grand banquet civique. Je voudrais aussi dire que toutes les espèces vivantes devraient y être conviées. Et tout d'un coup, il se convertit à l'histoire naturelle et il va écrire des livres absolument majeurs, l'oiseau, la mer, la montagne, l'insecte, etc., où précisément il se reconvertit lui aussi de nouveau aux sciences de la vie et de la terre, non pas parti de l'horizon formel et abstrait des mathématiques, mais parti au contraire de l'horizon concret et humain des sciences sociales. Voilà une histoire vraiment très intéressante qui permet de comprendre peu à peu comment, à mesure que l'histoire avance, les sciences de la vie et de la terre dont vous avez parlé, M. Desgrossiou, deviennent de plus en plus importantes dans l'évolution même de ces inventaires du savoir ou de ces inventaires des ressources cognitives. Et cela me fait penser que au moment même où se créent, où se forment, où s'inventent les sciences, au moment même où s'invente en même temps la philosophie, c'est-à-dire en Grèce au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, nous avons la même tendance, la même évolution, le même mouvement. L'école d'Athènes, fondée à cette époque-là, porte sur le fronton que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et effectivement, l'école platonicienne sera, dès le début de la science et dès le début de la philosophie, un inventaire des ressources formelles, des ressources cognitives les plus formelles possibles, c'est-à-dire fera l'éloge de la géométrie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. La génération de Platon ne s'est pas évanouie, qu'il est remplacé aussitôt par qui ? Par Aristote, qui est précisément médecin, qui est de la famille de médecins, qui est précisément biologiste, qui est précisément passionné par les parties des animaux, qui aura des élèves comme Théophras, qui feront de la botanique, etc. Et on voit en moins d'un siècle toute l'école d'Athènes évoluer exactement selon le schéma que je viens de dessiner avec des exemples locaux que j'ai choisi tout à l'heure. Et si vous regardez, par exemple, le grand tableau de Raphaël à Rome qui s'appelle l'école d'Athènes, vous verrez Platon et Aristote dont l'un tient le Timée. Et le Timée, vous le savez, c'est le grand échec de Platon. C'est le grand échec des sciences formelles, puisqu'il prétendait dans le Timée, Platon, déduire la totalité des choses à partir des sciences formelles, c'est-à-dire à partir des mathématiques, à partir de la géométrie. Effectivement, ça ne marche pas. Nous découvrirons au XVIe siècle que ça ne marche pas sans l'expérience, sans la physique mathématique, bien sûr. Et le grand échec, là, est relayé par Aristote, qui, lui, au contraire, va partir des choses mêmes, c'est-à-dire de nouveau des météores, de nouveau du climat, de nouveau de la Terre, de nouveau de la botanique et de la zoologie. Et si j'avais, mais je ne le ferais pas, bien sûr, si j'avais l'ambition de réécrire toute l'histoire des sciences, qui a été mon métier pendant ma vie enseignante, j'aurais envie de généraliser simplement à la totalité de l'histoire des sciences ce mouvement-là que je viens de découvrir à la fois dans des exemples ponctuels des siècles passés et surtout dans les conditions initiales d'invention de la science au moment de la constitution de l'école d'Athènes en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez donc là cet immense mouvement des formes vers les choses, ce mouvement formidable d'inventaire des ressources cognitives, où les ressources sont prises à la fois dans leur côté formel et dans leur puissance réelle. Cette histoire-là, nous en vivons aujourd'hui la présence. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui que cette révolution du savoir dont nous parlons tous et dont vous avez eu pendant ce colloque des témoignages dans chaque exposé va nous faire réfléchir sur la probabilité d'une nouvelle révolution industrielle. Je crois Très bien, et d'ailleurs je le dis dans le livre que vous avez gentiment cité, M. Desgrossiaux, je dis qu'en effet, il est probable que, pour les raisons dont mon prédécesseur a donné très intelligemment la liste, la révolution industrielle sera assez facile à prévoir. Vous savez que l'inventaire précède l'invention, facile à prévoir simplement parce que les techniques vont plus ou moins se décrocher des sciences les plus dures pour se réaccrocher aux sciences de la vie et de la terre, tout simplement. C'est-à-dire nos travaux, nos pratiques, nos techniques, nos industries, notre économie va peu à peu dériver des sciences dures, comme il l'avait fait mécanique et thermodynamique, vers tout simplement les sciences de la vie et de la terre. On peut prévoir en effet ce mouvement-là qui est déjà largement commencé dans les pays les plus développés. Et voilà donc que j'ai fini avec ma première partie où je vous avais promis de faire une sorte de récapitulation temporelle ou historique des recherches des ressources, c'est-à-dire des inventaires cognitifs ou des inventaires qu'on peut faire de nos ressources les plus rares et les plus précieuses. Mais je vous avais dit aussi qu'il y a un second inventaire qu'on peut faire et qu'on a fait effectivement pendant tout le colloque et sur lequel je ne reviendrai pas, qui est le suivant, c'est que il est probable, il est même certain que nous disposons aujourd'hui de chiffres statistiques globaux ou de bilans évolutifs sur presque toute chose. Les tableaux que vous avez admirés pendant deux jours vous l'ont souvent dit. En effet, nous avons à notre disposition des inventaires ou des là chiffrés et là réellement précis, au moins statistiques, de la démographie, du peuplement des lieux, du peuplement des nations, de la planète entière, de l'évolution des âges, de l'évolution de l'espérance de vie, de la natalité, de la mortalité, de l'état de la santé par l'OMS, de l'état des maladies éradiquées, des maladies les plus graves. Nous avons des milliers de chiffres globaux concernant l'économie, l'industrie, l'agriculture, les imports, les exports, etc., les monnaies, les dettes, etc., quel pays est endetté, quel pays est gravement endetté, plus ou moins. Nous avons des chiffres globaux aussi sur l'état des religions, sur l'état des rites, sur l'évolution même de ces pratiques religieuses. Nous avons des statistiques précises sur l'état des langues. Tenez, je fais une parenthèse ici. Vous savez que j'appartiens à cette association de malfaiteurs qu'on appelle l'Académie française, et je vais vous donner un chiffre sur la langue française qui peut-être vous étonnera parce qu'il est tout à fait nouveau dans notre compagnie. Nous publions tous les 20 ans ou tous les 22 ou 3 ans un dictionnaire global, inventaire cognitif, d'une ressource cognitive de la langue française. Or, entre deux publications du dictionnaire, nous faisons ça depuis 4 siècles et demi exactement, entre deux publications, le gradient de différence de langue s'établit entre 2 et 3 000 mots, quelquefois 3 500 mots. Or, entre la dernière édition du dictionnaire de l'Académie et celle que nous préparons et qui va paraître dans 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans, le gradient de différence est de 35 000 mots. C'est-à-dire, on peut imaginer, puisqu'on a aujourd'hui le chiffre, on peut imaginer que nos petits-enfants, peut-être nos enfants, enfin peut-être nos arrière-petits-enfants, parleront une langue française qui sera aussi difficile à comprendre pour nous, qui est difficile à comprendre pour nous, ce qu'on appelle l'ancien français. Vous voyez, c'est-à-dire le gradient de différence est tout à fait brusque. Vous voyez qu'on a des chiffres tout à fait parlants et précis sur l'état des langues. D'ailleurs, ce chiffre-là doit être repris pour être compris aussi bien pour l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais, le chinois, etc. Et nous avons, bon, je recommence ma litanie, nous avons des chiffres tout à fait plausibles sur les recherches, les sciences, les réserves minières de pétrole, vous venez de les voir, de métaux, sur l'énergie solaire journalière, sur la proportion de CO2 dans l'atmosphère. Bref, on a là des chiffres globaux, y compris dans les sciences de la vie et de la terre, des espèces en voie d'éradication, l'énorme quantité des espèces qu'on ne connaît pas encore, etc. Voilà, nous disposons d'une banque de données où nous avons des chiffres et des estimations de ressources précises, globales, statistiques précises. Mais en plus que ça, nous avons non seulement ces chiffres-là, qui sont des quantités bien précises, mais nous avons aussi l'évaluation des tendances. C'est-à-dire, on a des projections probables sur telle et telle année, sur petit terme, court terme ou long terme. On a aussi des mémoires de millions d'années ou de milliers d'années sur le climat, sur les roches, etc. Et par conséquent, nous savons combien de mètres cubes d'eau sont disponibles dans telle et telle époque. Nous savons, en cas de sécheresse, comment les mobiliser. Nous savons combien de dépenses par tête se font par l'énergie, les aliments, les médicaments, etc. Voilà. Nous avons non seulement des chiffres, mais des tendances dans le passé et des tendances dans l'avenir. Mais non seulement nous disposons des chiffres et des tendances, mais nous disposons aussi d'une récapitulation qui est beaucoup plus importante et intéressante que toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, car je n'ai récapitulé que des œuvres locales, que je n'ai récapitulé que des tendances dans l'inventaire des systèmes cognitifs ou des ressources cognitives ou si vous voulez, une tendance un peu plus générale dans la totalité de l'histoire des sciences, au moins rapidement dit. Mais nous avons mieux que ça aujourd'hui. Nous avons ce que j'ai appelé, il y a déjà 15 ans, le grand récit, c'est-à-dire cette espèce de développement contingent du monde tel qu'on le connaît depuis l'origine de l'univers, le refroidissement, l'arrivée de la planète, l'arrivée de la vie et l'arrivée des espèces, l'évolution des espèces et l'arrivée de l'homme, c'est-à-dire ce que j'appelais le grand récit. Ça aussi, c'est un inventaire complet de la genèse de ce dont nous avons besoin, de nos... j'arrive pas à trouver le mot. et donc, ce grand récit-là est aussi un inventaire complet qui est simplement la genèse des ressources, qui est la genèse des ressources telle qu'on peut la déployer depuis l'origine de l'univers. Autrement dit, on a plusieurs inventaires de ressources globales et de leur temps d'évolution. Eh bien voilà, ça n'était jamais arrivé dans notre histoire. Il n'était jamais arrivé, que je sache, même la génération qui nous précède presque immédiatement, ignorait parfaitement ces estimations globales et ce gigantesque récit temporel. Donc aujourd'hui, évidemment, chaque discipline locale, chacune de vos disciplines contribue pour sa part à donner des informations à cette banque de données globale et où il puise des indications pour son propre travail, mais comment ne pas rêver ce matin, aujourd'hui, à une véritable science de ces chiffres. Et voilà pourquoi, Monsieur Negrosiou, j'ai accepté de prendre la parole pour clore ce colloque, simplement pour dire que, voilà, il est vrai que cette opération majeure d'addition globale et de recueil de toutes les intégrales de ces chiffres-là caractérise notre temps. Aucun moment de l'histoire ne l'a encore connu, et je n'ai pas souvenance d'un pape, d'un homme d'État, d'un savant, d'un législateur, d'un stratège, d'un philosophe qui ait pu disposer de ce type de chiffres. Qui n'ait jamais pu sommer concrètement toute chose. Avant notre génération, on ne pensait plus que localement. On ne pouvait sommer les choses que partiellement. Et par conséquent, les totalités dont je parle, nos ancêtres ne pensaient que par totalité abstraite. Ils parlaient du sens de l'histoire ou de l'encyclopédie, mais c'était des totalités abstraites. Aujourd'hui, on a des chiffres là-dessus, des totalités concrètes. Et par conséquent, je crois bien que le temps des crises, et j'ai oublié de le dire dans le livre, et c'est grâce à vous que je vais le dire, Monsieur Negrosiou, en effet, la rupture du temps des crises peut non seulement se photographier à l'aide des chiffres concernant la langue que j'ai donnée tout à l'heure, mais aussi peut se caractériser comme l'accès soudain à ces totalités, l'accès soudain à ces évaluations, l'urgence de ces évaluations et l'intégration de ces chiffres-là dans un savoir nouveau. Alors, ce savoir nouveau aurait pour objet, précisément, la totalité de ces chiffres-là. Alors, comment l'appeler ? Je ne sais pas très bien comment l'appeler, on pourrait l'appeler la pantologie, puisque il s'agit de totalité ou de pantique, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire comment ne pas considérer comme un objet la totalité donnée dans une banque de données de ces chiffres-là. Et bien entendu, nos institutions en seraient complètement transformées. Ça serait intéressant de dire, comme pour les boutiques, nos institutions sont fermées pour cause d'inventaire. C'est-à-dire que la politique serait fermée pour cause d'inventaire, car en effet, si nous avions à notre disposition un véritable savoir et une véritable pratique de la totalité de ces chiffres-là, il est hors de doute que toutes les institutions seraient transformées, non seulement le savoir, mais nos institutions et la politique elle-même, dont vous parliez tout à l'heure, M. Desgrossi, en posant votre question. Alors je dirais volontiers que les anciennes sciences expliquer les lois, qu'elles décrivaient les détails et les paysages, elles intervenaient sur le monde, on traçait notre marque ainsi sur le monde et on exploitait le monde. Voilà l'état global des anciennes sciences et des anciennes techniques. Et aujourd'hui, je crois que les nouvelles cherchent non pas à expliquer, mais à comprendre. Comprendre signifie précisément cette totalité-là, signifie interpréter les sommes et les relations et non pas seulement intervenir, à entretenir le monde et à le cultiver, c'est-à-dire non pas à l'exploiter, mais à le cultiver. Voilà, je crois, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de façon presque nouvelle et presque baptismale, le nouveau savoir des ressources. Merci beaucoup. Il y a des questions.
Une question ici, M. Oui. Cortillo.
Où êtes-vous ? Ah oui.
Moi, j'ai été, j'imagine, comme tout le monde, assez ébloui par cette démonstration et j'ai pourtant l'impression d'y trouver peut-être une contradiction. Aha. Vous nous avez bien montré cette évolution parallèle, oui, de ces grands savants au cours des siècles successifs, allant de ces sciences formelles, en gros aux sciences de la vie et de la terre. Pour le géologue que je suis, c'est évidemment un grand plaisir, même en entendant citer Auguste Comte, de l'entendre citer à l'envers, dans la mesure où on nous bassine avec la classification d'Auguste Comte qui est statique et verticale, avec ses sciences formelles au sommet et les sciences de la vie et de la terre bien bas, tout près des poubelles, alors que vous nous avez décrit quelque chose de dynamique qui va vers les...
Auguste Comte dit précisément qu'au milieu de la classification, il s'est converti.
Voilà. Il l'a alors, dit. J'ignorais oui, totalement cette conversion.
Je suis le disciple de Bainville, dit-il, et je deviens... biologiste.
Eh bien, je oui, devrais, oui, devant mes étudiants, cesser de médire de la classification d'Auguste Comte, ou plutôt de la seconde partie de sa d'accord, vie que j'ignorais. Et donc, il est parti vers les sciences de la vie et de la terre, et les voir comme un aboutissement dynamique, c'est exact, évidemment formidable. Exact. Ce qui me gêne, ça n'est pas du tout le fait que vous nous montriez que nous soyons dans un moment passionnant et un moment qui nous interroge énormément, c'est le fait que vous trouviez que ce moment est particulier. Ça me rappelle un peu la fin de l'histoire. Et je me demande dans quelle mesure nous ne sommes pas dans un moment normal, mais un moment normal d'une exponentielle qui donne l'impression, oui, d'être exceptionnelle, oui, mais que dans 200 ou 300 ans, nous aurons découvert autant que nous avons découvert et nous nous positionnerons de la même façon, non pas à ce sommet étonnant de l'histoire, mais à un moment, oui, passionnant, oui, mais parmi d'autres.
On peut le dire en effet, vous avez parfaitement raison de soutenir cette thèse. Vous me permettrez quand même de soutenir la thèse inverse qui est la mienne. Je vais vous dire pourquoi. Ce ne serait que subjectif de dire nouveau ou exceptionnel si je n'avais pas proposé une mesure de cette nouveauté. Et dans le temps des crises, justement, que M. Desgrossi a cité, je propose une mesure objective de la nouveauté. Je prends un exemple. Au hasard, je dis par exemple qu'au début de ce siècle, du siècle dernier, nous étions dans les pays analogues aux nôtres 75% d'agriculteurs. Et aujourd'hui, vous le savez sans doute, nous sommes 1,1% d'agriculteurs à peu près dans les pays analogues aux nôtres. D'ailleurs, dans tous les autres pays, y compris des pays en voie de développement, cet effondrement du nombre d'agriculteurs est à peu près le même. Alors, la question, c'est est-ce nouveau ou est-ce nouveau subjectivement, moi qui le vois, ou est-ce objectivement quelque chose d'exceptionnel ? Alors, la question est la suivante. Depuis quand étions-nous 75% d'agriculteurs ? Réponse, depuis le néolithique, date à laquelle les ancêtres de génie, d'ailleurs, ont inventé de domestiquer certaines espèces de faune et de flore. Depuis lors, nous étions agriculteurs et éleveurs. Et par conséquent, on peut dire que la fin du siècle, c'est la fin du néolithique. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que la nouveauté ? Qu'est-ce qu'un événement nouveau ? C'est un événement dont la nouveauté est proportionnelle au temps, à la longueur du temps qu'elle achève. Voilà. Et si cette longueur va du néolithique à 1970 ou 80, c'est que c'est vraiment un événement quantitativement nouveau. Voilà. Et de même pour les chiffres dont je parle, eh bien, nous n'avions jamais... il y en a un seulement qui, à ma connaissance, a tenté ce chiffrage-là. Il y a un texte fameux de Leibniz, de Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe du XVIIe siècle, qui tente de chiffrer l'horizon du savoir humain. Et il le chiffre avec un chiffre. Il dit « ça fait tant de pensées ». Vous voyez, il essaie de le chiffrer. C'est un peu comique, si vous voulez. Mais avant, il n'y a pas de chiffres globaux de ce genre. Monsieur ?
Si je peux, mais je sais que nous sommes très pressés. Je vous propose alors un compromis en remplaçant mon exponentielle par la courbe sigmoïde, qui est celle d'ailleurs de l'évolution de la population et qui est derrière beaucoup de phénomènes avec des boucles de contre-réaction négatives, en disant que nous ne sommes pas loin du point d'inflexion et que donc si nous sommes dans un moment spécial avec peut-être bientôt un palier, il y a encore une marge de progression.
Oui, probablement.
Et sur les bases de données dont vous avez parlé, je pense qu'elles nous sont bien moins bien connues que nous ne le croyons.
Oui,
les incertitudes restent énormes.
Oui, c'est d'accord. Enfin, nous serions, écoutez, je dirais volontiers que nous sommes dans une période à peu près analogue à celle de la Renaissance, disons, quelque chose comme ça. Voilà.
Sur ces constatations, je vous invite à applaudir très fortement.